Moi, je suis médecin et j'exerce la médecine générale, donc je suis confronté à ces questions. La notion de proche, vous avez beaucoup parlé de ce proche, avec beaucoup de qualités humaines, d'attention, de présence, etc. Mais qu'en est-il quand un médecin qui, au départ, dans une relation duelle avec son patient, ce qui nous arrive régulièrement, se voit un peu, pas troublé, mais interpellé dans cette relation duelle qui devient triangulaire, et notamment, quand le proche, quand on perçoit qu'il y a des bénéfices secondaires du proche concernant la vie ou la mort du patient, et comment gérer cette situation qui peut paraître des fois plus qu'ambivalente, un peu paradoxale, et de quel droit non on peut cautionner cette proximité. Est-ce qu'il y a des garants qui peuvent nous aider dans cette démarche d'aide aux patients fragiles? Je suis bien embêté. En pratique, je ne suis pas très rassuré de cette proximité au niveau de ça, du sens que ça prend vis-à-vis de mon patient, et que je me considère comme quelqu'un qui cautionne une relation qui me paraît pas très, disons, pas très simple, et pas très, pas dans la confiance comme on pourrait l'espérer. Je demande toujours à ce qu'il y ait une personne tierce. Vous avez parlé des magistrats, des autorités, de ça. Moi, j'invite toujours les gens à ce qu'il y ait une tierce personne pour aider celui qui est proche et pour formaliser les choses. Comme ça, au moins, ça sera plus simple pour nous. Parce que sinon, des fois, on est mal à l'aise. Quand vous avez un patient et son proche, le proche n'attend que le patient qui parte. C'est pas déjà pour la souffrance, parce que ça fait mal d'avoir mal. Ça fait mal à tout le monde. Et quand vous sentez que il y a ce qu'on appelle, nous, les bénéfices secondaires sont là, et alors là, ça nous met dans une situation un peu très, très difficile. Alors moi, la question que je pose, comment, c'est-à-dire, il y a le droit du malade, il y a le droit du médecin avec même le contrôle du médecin, parce que nous, on a des autorités qui nous contrôlent, il y a le conseil de l'ordre, il y a l'éthique médicale, etc. Mais le proche, la personne qui est proche, dans quel statut juridique on peut la placer? Est-ce que la personne proche, c'est une personne de confiance ou pas, ou bien on ne peut pas confondre les deux rôles? Comment éthiquement, on peut gérer cet aspect-là. Je vous remercie.
Et vous avez déjà répondu dans la présentation, c'est comme les cas cliniques d'un étudiant qui nous fait par exemple un master d'éthique, qui nous fait un cas clinique, et sans argumentation, on a déjà compris qu'il a déjà discerné toutes les composantes. Alors, il y a des juristes ici qui vous répondront sur la partie juridique. Moi, je n'ai pas mystifié ou idéalisé la position du proche. J'ai aussi des proches qui n'ont pas cherché à être proches et qui ne veulent pas l'être. Donc, ils le sont d'une manière contrainte. C'est pas parce que vous cohabitez avec quelqu'un que vous êtes proche, même si vous êtes marié. La notion de proximité. Et déjà, avec qui vous êtes proche, on se dit, je suis proche. Mais d'ailleurs, je ne suis pas que proche de la personne avec qui je suis marié, vous voyez ce que je veux dire, pour être très simpliste. Donc, quand vous tombe la maladie, l'inévitable, et que vous n'avez pas le choix, c'est ou abandonner votre proche avec toutes les conséquences que ça peut avoir, ou faire avec, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est très bien qu'on a de moins en moins le choix aujourd'hui. Vous avez des hospitalisations qui sont courtes, des structures de suivi qui sont très limitées en capacité d'accueil. En plus, ça coûte beaucoup d'argent. D'ailleurs, je vous fais une parenthèse. Quand vous avez une personne en long séjour et qu'on vous rappelle que vous êtes son proche et qu'il faut que vous mettiez la main au portefeuille pour payer son séjour, vous voyez, ça ne favorise pas des relations de proximité et d'affection, alors que vous êtes réduit finalement à la posture de celui qui cofinance ce que vous n'avez pas souhaité, avec la culpabilité quelquefois de votre proche hospitalisé qui dit en plus je coûte de l'argent. Et c'est ce qui explique souvent les syndromes, finalement les personnes se laissent aller d'une certaine manière, et qui meurt assez rapidement. Donc tout ça pour dire que vous avez bien répondu dans la notion du tiers. Là où les situations sont quelquefois des situations invivables, insupportables, c'est quand c'est une dualité, j'allais dire, dans l'enfermement. Et tout crée ces conditions. Quand vous êtes dans la solitude d'un huis clos, avec une dépendance réciproque et quelquefois une manipulation réciproque, hein, on arrive à une situation qui devient invivable. Et tout ce que vous aviez vécu, enfin quand je dis, je vous parle pas d'une expérience, c'est ce qu'on a compris à travers la proximologie, tout ce que vous aviez construit ensemble de confiance, tout ce qui s'était bâti, tout ce à quoi vous étiez attaché, se dilapide, se liquéfie. Et c'est là, je cherchais mon mot tout à l'heure, du syndrome de glissement, où vous avez des gens qui ont envie de glisser, de partir assez rapidement pour ne pas quitter le monde en ayant tout fracassé avant. Il y a cette expérience, en tous les cas, du désastre qu'on occasionne. Non seulement on est malade d'une maladie grave pour laquelle quelquefois il n'y a pas de traitement, on a un plus, le sentiment quelquefois qu'on va saccager tout au passage et qu'il ne restera plus rien de digne après nous, si ce n'est le regret de tout ce qu'on aura saccagé. Donc, ce que vous dites, et maintenant c'est le juriste de voir, d'abord, ça m'a beaucoup frappé, dans une institution pour personnes âgées, il s'était posé des heures et des heures la question, comment déplacer trois personnes pour arriver à libérer une chambre et mettre deux lits pour un couple qui devait être institutionnalisé. C'est pas le beau terme, en tous les cas, c'est le terme qui a été employé. Et donc, ils déplacent pour créer les conditions d'un accueil dans la continuité de leur vie de couple, où les deux allaient pouvoir cohabiter ensemble d'une certaine manière. Et le mari dit, attendez, j'ai vécu avec elle pendant 60 ans, si c'est pour l'avoir avec moi également en institution, alors là, je viens pas. Tout ça pour dire que il y a des moments qui sont très très révélateurs. On l'a vu pour la personne de confiance, quand... je dis pas ça d'une manière un petit peu rapide, mais pour être très très concret, quand vous n'avez pas confiance dans votre proche, mais vous n'avez jamais eu confiance, uniquement pour des raisons sociales, vous n'avez pas fait ce qui se fait plus facilement aujourd'hui, vous n'avez pas divorcé, vous dites bon, on est une espèce de continuité, chacun s'arrange à sa manière. Mais quand c'est votre affection d'autrefois, un amour de jeunesse, qui, voilà, c'est la personne avec laquelle vous voulez retrouver quelque chose au moment où tout va mal, imaginez l'impact que ça peut avoir aussi pour le proche, le côté déstabilisation, c'est des moments très révélateurs, la maladie grave. Donc, à un moment immédiat, enfin je veux dire, tout se bouleverse, tout se déstructure. Et c'est pour ça que quand vous dites, vous êtes dans une position d'observateur dans un lieu privé, dans un lieu privé en fin de compte, parce que ce qui se passe en institution est régi par des règles, mais bon, il y a aussi des règles, par exemple, pour la personne vulnérable, si vous voyez effectivement qu'il y a des actes de maltraitance, hein, vous avez même Alma, bon, vous avez tout un ensemble de procédures à mettre en œuvre, de signalement, ça on pourra vous le reprocher. Mais c'est très très difficile pour la simple raison que si vous êtes trop, j'allais dire, intrusif, percutant ou critique, vous risquez encore de déstabiliser davantage la situation. Ce qui m'a beaucoup frappé par analogie, nous on travaille un petit peu comme dans le Talmud, par analogie au niveau de l'éthique, et il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, c'était dans un hôpital de pédiatrie à la PHP, et ils avaient un enfant qui visiblement avait été maltraité. Et donc ils hésitent de signaler, alors que la loi les oblige, sans se poser d'état d'âme, à signaler au procureur de la République, donc il y a toute une procédure à mettre en œuvre, qu'il y a eu maltraitance sur enfant. Et ils connaissaient la famille et la fratrie, et ils disent, si on signale, ça va être une procédure judiciaire, peut-être on va séparer les parents des enfants, ils sont quand même pas totalement maltraitants, et puis culturellement, c'est une culture où on est assez dans le geste, dans l'acte assez rapide. Donc ils pondèrent, et ils ne signalent pas. Et 3 mois plus tard, l'enfant était mort. Donc voilà les situations de paradoxes. C'est pour ça que jamais, on a 15 ans à l'espace éthique de la PHP, je ne sais pas ce qu'ils font à Lille comme attitude, mais jamais nous ne sommes immiscés, enfin on dit immiscés, enfin bon, jamais en tous les cas nous ne sommes mêlés d'une manière d'émiction, dans une prise de décision complexe qui intègre énormément de facteurs, et pour nous c'est des prises de décision qui doivent être pondérées à la fois par un jugement qui est le jugement médical, et si c'est nécessaire par il y a tout un ensemble, un environnement au niveau de l'assistance à domicile, etc. Donc je vous réponds maladroitement pour vous dire, chaque fois en matière d'éthique il faut trouver le préférable et à trouver l'arbitrage le plus juste, et ce qui est préférable à un moment donné le sera peut-être pas demain. si vous avez des moments de crise, mais vous pouvez dire aussi demain, peut-être les choses se dénoueront, peut-être qu'il y aura d'autres alliances qui vont se construire. C'est quand on est face à une situation qui vous paraîtra irrévocable à un moment donné, raison de grande maltraitance, ou de souffrance, puisque c'était le mot que vous avez employé dans votre affaire, de souffrance réciproque, c'est-à-dire dont personne ne sort. C'est une espèce d'enfermement et d'enlisement, à mon avis, qu'on doit faire appel à un tiers. Alors, les solutions qui sont préconisées, souvent, c'est le répit, c'est-à-dire quand on voit qu'il y a une situation d'enlisement, c'est trouver une structure d'accueil pour un temps donné, qui permet à chacun de retrouver ses marques, et de faire à froid, une espèce de débriefing, et de dire, est-ce qu'on reprend la personne à domicile, est-ce qu'on trouve une alternative. Le seul problème, nous on l'a vu pour la SLA, c'est qu'avec les modes aujourd'hui d'AT2A et le reste, et les modes notamment de financement d'hospitalisation dans les institutions, où le prix des médicaments, par exemple pour la SLA, donc on a de moins en moins de structures d'accueil qui sont compliantes au fait d'accueillir pour des séjours de répit. Donc il y a tout à inventer, mais ça peut se terminer très très mal, ça peut se terminer par la tentative de meurtre. Je ne parle pas du meurtre moral, mais c'est aussi ça la réalité. C'est là où probablement l'association pour le droit de mourir dans la dignité de beau jour. Parce que face à la situation impossible, l'alternative, on n'est pas loin de la Belgique, allez voir comment les lois belges et hollandaises en matière d'euthanasie ont évolué depuis 2002. Donc il est assez évident que demain la réponse sera l'euthanasie. Enfin, j'ai pas répondu à votre affaire, mais on a dit qu'il y avait des magistrats, enfin des juristes dans la salle, qui ont peut-être à dire par rapport à votre question de droit.